Senior Living Lab, c'est le nom de code d'un tout nouveau laboratoire d'idées pour imaginer le bien vieillir. C'est une première en Suisse. Il a été inauguré mardi à Lausanne. Un designer fait partie de l'aventure. Il est professeur à l'ECAL. Le design peut-il changer la vie des personnes âgées, nos vies? Cette discipline va-t-elle dominer le 21e siècle? Luc Bergeron est l'invité de Haute Définition.
Haute Définition, Manuela Salvi.
Bonjour Luc Bergeron.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'ECAL, l'École cantonale d'art de Lausanne, professeur en design industriel, et vous participez d'une belle aventure, le Senior Living Lab, passionnant. On sait que la population vieillit. Projet intéressant parce qu'il est interdisciplinaire. C'est un laboratoire d'innovation sociale. Il implique l'ECAL, la HES Santé, l'école d'ingénieurs.
Voilà, plus précisément, l'Institut et l'école de santé La Source, l'école d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg, et puis la haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud.
Donc transdisciplinarité pour imaginer comment les personnes âgées vont vivre, dans quel environnement elles vont vivre.
Oui, et quels seront leurs besoins futurs, hein, finalement, parce que l'idée c'est quand même de travailler un tout petit peu sur le futur des objets et des services dont pourraient bénéficier les personnes âgées d'ici quelques années ou quelques dizaines d'années, sachant que l'évolution de nos pratiques, notamment hein, comme personnes âgées, évolue largement c'est depuis ces dernières années.
Et vous dites bien, Luc Bergeron, objets et services.
Absolument, c'est très important parce qu'il ne s'agit pas forcément de travailler que sur des objets. Les services sont de plus en plus importants dans nos sociétés. Vous n'avez qu'à
l'objet,
penser...
L'objet, par exemple, ce serait un téléphone avec des grosses touches.
Par exemple, hein, ça c'est l'exemple le plus simple, hein, le plus classique. Mais ça pourrait être aussi des services qui sont des applications sur votre smartphone, parfaitement adaptées par exemple à des réseaux d'aînés. On pourrait parler de ça, mais ça pourrait être aussi des bonnes pratiques. C'est-à-dire, par exemple, si on travaille sur des questions d'alimentation, comment permettre à des personnes âgées de ne pas perdre l'appétit, par exemple, dans certaines circonstances, etc. Et là, on est plus dans le domaine des pratiques.
On comprend bien qu'une école de santé, que des infirmières, des médecins soient impliqués dans le projet, que des informaticiens, des ingénieurs soient impliqués. Pour lesquels ça paraît une évidence, on peut s'étonner tout de même.
Oui, bien sûr. Si vous considérez que le design, c'est que de l'esthétique, là, on peut s'étonner. Bien sûr, c'est une préoccupation importante des designers, parce que l'objectif du design, c'est quand même de faire des produits qui augmentent notre confort, hein, finalement, et notre qualité de vie. Mais pour arriver à cela, il faut aussi que les designers puissent, si vous voulez, travailler beaucoup plus en profondeur sur les produits et les services qu'ils développent, évidemment, en collaboration avec des ingénieurs, avec des gens qui sont éventuellement d'autres domaines. On collabore avec beaucoup, beaucoup de gens quand on travaille en design.
Ce Senior Living Lab a de passionnant et d'intéressant, c'est qu'au fond, on part vraiment des besoins des personnes âgées.
Alors, l'objectif de ce Senior Living Lab, ou des Living Labs en général, c'est effectivement de développer des produits et des services en impliquant les utilisateurs dès le début de la réflexion.
On devrait le faire tout le temps, parce que
Il y a une grande, entre guillemets, mode aujourd'hui de la co-création, etc. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que les utilisateurs aujourd'hui, j'aime pas le terme consommateur, mais les utilisateurs de plus en plus désirent être associés au développement des produits et des services qu'ils utilisent. Ce qui est juste, ce qui fonctionne bien lorsque ce sont des besoins qui sont bien exprimés, ce qui est un peu plus difficile si ce sont des besoins latents. Si on avait, au tout démarrage du développement des écrans tactiles qui ont permis par exemple l'émergence des smartphones, si on avait demandé aux gens de travailler directement avec les ingénieurs et les designers à l'époque, peut-être qu'on n'aurait jamais vu de smartphone parce que les besoins étaient latents. On a plutôt presque développé le besoin en même temps que l'appareil ou que la technologie.
On y reviendra, Luc Bergeron. Mm-hmm. Le design comme levier d'innovation sociale, comme levier de changement, mais design. Le grand public imagine que c'est un luxe réservé aux riches, coûteux et superflu. C'est une erreur d'appréciation ?
C'est une grande erreur d'appréciation parce que le design nous entoure.
Ça vous fâche ?
Ça me fâche pas parce que, vous savez, moi je fais du design depuis de très nombreuses années. Quand j'ai commencé, c'est un mot qui n'existait pratiquement pas. Aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Ce qui me choque beaucoup, c'est quand on dit d'un objet qu'il est design, comme si le design c'était un style. C'est pas du tout un style. Le design, c'est une façon de faire les choses.
C'est une vision du monde.
C'est une vision du monde, bien sûr. C'est une approche qui demande une certaine capacité d'apprécier les choses, qui demande aussi un certain nombre de compétences, des compétences dans des domaines assez variés, pour être en mesure, finalement, quand il s'agit de produits ou services, de fabriquer de la cohérence. Moi, c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est que finalement, on est confronté à des besoins qui sont, comme je le disais tout à l'heure, exprimés ou latents. De ces besoins, on doit finalement développer des fonctions sur un objet ou sur une application ou sur un service. De là, on a à disposition des technologies et des méthodes qui nous permettent de mettre en forme les choses. Tout ça, idéalement, avec un certain confort, c'est-à-dire une esthétique visuelle, éventuellement tactile, auditive, etc.
Mais vous utilisez le mot esthétique tout de même.
Bien sûr, parce que le but en soi, c'est quand même de faire des choses qui améliorent notre confort. Et notre confort, l'esthétique fait partie du confort, et je pense que c'est un point de vue important, quoi.
Donc on baigne dans le design, Luc Bergeron, c'est pas seulement nos intérieurs où on peut avoir un fauteuil signé par un grand designer, par quelqu'un de célèbre, on le baigne dans la rue, quand on utilise un téléphone, une tablette, le produit design est fait pour être utilisé, donc je reviens sur le levier du changement, donc potentiellement, il peut changer nos vies, on prend l'exemple des écrans tactiles et des smartphones.
Bah, ça a changé complètement, en tout cas, notre manière d'avoir accès aux technologies numériques.
Mais vous avez conscience, quand vous développez un produit, quand vous développez, au fond, la forme du produit, donc qui va forcément avoir un impact sur comment on va utiliser ce produit, est-ce que vous avez conscience de ça ?
Bien sûr, c'est évident, c'est même, je dirais, une des bases du travail, quoi. Donc, nous, comme designers, en tout cas, quand on fait un travail basé sur, justement, notamment sur les technologies, l'objectif, c'est quand même, au départ, de se mettre dans la peau du consommateur ou de l'utilisateur et de lui faciliter la vie.
Bon, des fois, on s'imagine que le designer ne s'est pas tout à fait mis dans la peau du consommateur ou de l'usager.
Alors, ça peut arriver.
Soit c'est compliqué, soit c'est pas beau, soit ça marche pas.
Alors, ça peut arriver, mais il y a aussi plusieurs types de design, hein, ou de façon de faire du design, comme je pense qu'il y en a autant qu'il y a de designers. Si je schématise vraiment beaucoup, je pourrais dire qu'il y a deux grandes options, deux grandes optiques du design. Il y a le design d'auteur, qui est un design qui va se rapprocher un peu plus des arts visuels, si on veut.
Tout là, aux frontières avec l'art et l'artiste.
Voilà, exactement. Où là, le designer...
Ça fâche les artistes, en revanche.
Ça fâche les artistes, comme certains designers sont fâchés que les artistes viennent sur le terrain du design produit. Personnellement, je pense que les designers sont formés pour être des designers, pas forcément des artistes, et le contraire est vrai aussi. Mais ce qui n'empêche pas les exceptions, parce qu'il y a certainement des gens qui savent très bien louvoyer entre les deux.
Quoi. Là, il faut avoir du talent.
Il faut avoir du talent, oui.
Et être reconnu par le public comme ayant du talent.
Comme par le milieu, hein, mais le design d'auteur est aussi un design qui est fait par des designers pour des designers, plus que pour le grand public.
Donc on revient à l'idée du designer luxe réservé aux riches, ou en tout cas aux branchés qui savent, aux initiés.
C'est une partie du design qui est incontournable, comme certaines formes d'art sont difficiles, moins accessibles, disons, que d'autres. Quoi.
Alors le design d'auteur, c'est pas du tout ce qui va se pratiquer dans ce Senior Living Lab.
Absolument.
L'autre design, c'est...
Alors l'autre design, je l'appelle plutôt design sur mandat, c'est-à-dire que c'est finalement un fabricant, c'est un groupe d'utilisateurs qui fait le cahier des charges, hein, qui dit au designer, voilà, moi j'aimerais un produit ou un service qui fait tel type de choses, maintenant vous me développez ça en relation avec les ingénieurs, bien sûr, les ergonomes, etc., etc. Donc c'est un design qui est plus axé sur comment dire, c'est vraiment le client qui propose, alors que dans le design d'auteur c'est le designer qui propose.
Alors là
c'est,
le client,
c'est assez différent.
Ce sont les personnes âgées. Quel produit pourrait sortir de ce Senior Living Lab?
Écoutez, dans ce Senior Living Lab, on a pour en tout cas les deux prochaines années défini trois thématiques prioritaires. Il y a une thématique sur la communication, donc on va travailler avec l'entreprise Swisscom. On a une deuxième thématique qui est sur la mobilité. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand une personne âgée perd son permis de conduire, par exemple? Donc, c'est un scénario qui est tout à fait fréquent.
Là, on est dans les
et
services.
Auquel on répond assez mal, finalement. Hein. On sait que les personnes âgées sont réticentes, peut-être dans certains cas, à prendre les transports publics, etc. Et puis, la troisième thématique, c'est l'alimentation. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir aux personnes âgées comme service, ou peut-être comme objet, hein, j'en sais rien aujourd'hui, qui pourrait, en gros, pour certains d'entre eux, leur redonner l'appétit, par exemple, ou les inciter à manger sainement pour que leur qualité de vie s'améliore, ou en tout cas ne se dégrade pas. Parce que l'objectif de Senior Living Lab aussi, c'est de travailler sur le bien vieillir. On ne veut pas travailler sur le vieillissement négatif.
Donc sur la qualité de vie.
Sur la qualité de vie, et on pense intimement qu'il est possible aujourd'hui de bien vieillir parce qu'on a tout l'attirail, entre guillemets, qui permet de le faire, y compris l'attirail pharmaceutique, bien sûr.
Oui, on a tout ce qu'il faut, et en plus, on peut faire en sorte que ces services ou ces objets soient le plus beau, le plus confortable, les plus agréables et les mieux adaptés possibles. Donc,
absolument.
Le Senior Living Lab, laboratoire d'innovation sociale, vous disiez à l'instant, Luc Bergeron, que vous avez commencé à faire du design quand le mot existait à peine. C'est vraiment un enfant du XXe siècle. Le design, au début, design industriel, son objectif, c'était d'humaniser les machines, c'est bien juste.
En gros, c'était ça, en tout cas au début, oui, bien sûr, c'est le design industriel, en tout cas le design industriel d'objets est apparu avec la révolution industrielle, quand il s'est agi de commencer à faire des objets en série, où on s'est dit, ben, on ne peut plus reprendre les codes ou les manières de fonctionner de l'artisanat pour les intégrer dans la fabrication en série. Donc c'est là où les premières réflexions se sont faites et toute la profession s'est développée autour de ça, quoi.
Alors si aujourd'hui le design est synonyme d'innovation sociale, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit ou qu'il s'agirait d'humaniser la révolution numérique ?
Le design ne va pas sauver l'humanité. Le designer tout seul ne peut pas faire grand-chose. Hein. Je pense qu'on peut contribuer largement à faciliter nos liens avec le numérique, hein, de créer peut-être des liens nouveaux entre le virtuel et le réel. Il y a du reste des choses extrêmement intéressantes qui se font en design d'interaction aujourd'hui en expérience, hein, entre le réel et le virtuel. Et ça, je pense que c'est des choses qui progressent et qui sont intéressantes. Et on a les designers ont leur mot à dire là-dedans, mais ils peuvent pas le faire tout seuls. Il faut aussi des ingénieurs derrière qui nous proposent des nouvelles technologies ou qui nous aident à en développer de nouvelles. Il nous faut aussi des ergonomes qui nous permettent d'adapter correctement toutes ces nouvelles technologies ou tous ces nouveaux produits ou services aux utilisateurs et non pas le contraire. Il nous faut aussi éventuellement des sociologues qui nous permettent de prêter attention aux comportements, aux nouveaux comportements, les anthropologues, etc. Donc on travaille avec beaucoup de différentes disciplines.
Et tout ce beau monde ensemble, c'est un vrai levier de changement.
Absolument, bien sûr.
Mais est-ce que c'est l'émergence d'une nouvelle culture ?
La culture de l'interdisciplinarité existe depuis, je pense, assez longtemps. Simplement, je crois qu'aujourd'hui, c'est une tendance de fond. On ne peut plus aujourd'hui innover simplement en disant « je mets une nouvelle technologie sur le marché ». Donc, je pense intimement qu'il faut qu'on travaille à plusieurs disciplines pour que ce soit fait dans les meilleures conditions, que ça réponde vraiment à des besoins sociaux ou des besoins d'utilisateurs et que on réponde vraiment à quelque chose qui a du sens.
Mais au final, l'idée qui est derrière tout ça en toile de fond, c'est tout de même l'argent et la commercialisation. Il faut que ça marche.
Ben, c'est-à-dire que l'innovation, c'est l'invention plus le marché. S'il n'y a pas de marché pour finalement accepter ces nouveaux produits, ces nouveaux services, ben, ils n'existent bêtement pas.
Mais c'est pas vendre votre âme au diable que...
Écoutez,
de penser marché.
Non, le design, c'est une activité qui est commerciale. Le commerce bien fait, comme le marketing bien fait, il n'y a rien de méchant. Hein,
donc c'est toutes les lettres de noblesse du design.
Pour moi, c'est assez clair, ouais.
Alors, le design, une discipline, une pratique, on peut dire au croisement de l'art, de la science, du marketing, du commerce, de la politique aussi.
Dans certains cas, peut-être de la politique aussi, oui. Oui, bien sûr. Selon certaines approches, oui, je pense, quoi.
Vous avez un exemple concret ?
Pas vraiment, en fait.
Ce Senior Living Lab pourrait changer les choses.
Le Senior Living Lab, en tout cas, on va travailler notamment avec les institutions politiques, puisque il faut bien intégrer dans cette démarche toutes les parties prenantes. Hein. Peut-être que le design proposera des choses qui bousculeront les politiques. Ce serait en tout cas intéressant. Hein. Je pense aussi que ce type de laboratoire, entre guillemets, est là aussi pour être une force de proposition, pour une force de changement, donc nécessairement une force de perturbation, quoi, notamment auprès du monde politique.
Donc on revient à l'innovation sociale. Design, une discipline, mais qui pourrait dominer le 21e siècle. Certains philosophes, pour ne pas le nommer Stéphane Vial, qui a écrit un livre sur le design, les philosophes se sont très peu intéressés au design, ça commence maintenant.
Oui.
Mais Stéphane Vial dit que la discipline pourrait dominer le 21e siècle. Vous êtes d'accord avec ça ?
Je disais tout à l'heure, le design ne va pas sauver le monde. C'est une discipline, effectivement, qui a gagné ses lettres de noblesse, qui commence maintenant à être un peu mieux connue, en tout cas du grand public, qui commence à être aussi un peu mieux connue, je dirais, du réseau des petites et moyennes entreprises, ce qui n'était pas le cas avant. Et là, ça permet, en tout cas insidieusement peut-être, de se greffer sur toute une série d'activités industrielles, commerciales, de création, dans lesquelles, je pense, nous avons un rôle à jouer.
Quoi. Alors, vous avez bien insisté, Luc Bergeron, ce n'est pas que de l'esthétique, mais un bel objet, un service qui est forcément, il y a des objets autour, c'est peut-être, vous parlez de transport public, un bus où il est agréable de monter, le beau, l'harmonieux, c'est aussi important.
Bien sûr, et comme je le disais tout à l'heure, le beau, l'harmonie, c'est la pointe de l'iceberg qui fait que le designer a bien travaillé et qu'il a fabriqué un objet ou un service parfaitement cohérent. En fonction de tous les critères qui font qu'un objet ou qu'un service fonctionne bien.
C'est ce que vous appelez la cohérence.
Absolument, c'est ça.
Ouais. Donc les designers ne vont pas sauver le monde, mais le rendre plus beau.
Plus cohérent peut-être et plus beau. Ouais.
C'est déjà pas
plus
mal.
Plus beau en tout cas, je pense, oui.
Merci Luc Bergeron.
Haute définition, une émission que vous pouvez réécouter ce soir à 22h40 sur la première.